Let me talk!
Bienvenue à tous dans votre nouvelle émission Let Me Talk, donc votre nouvelle émission hebdomadaire, une fois par semaine pour ceux qui ne savent pas. Donc cette émission sortira tous les mardis sur Apple Podcast ou Spotify. On s'autorisera quelques émissions spéciales de tirage au sort, pour des matchs européens, pour les matchs des Diables Rouges. Évidemment, ça risque de sortir un autre jour. Donc, comme sujet dans cette nouvelle émission, vous aurez les Diables Rouges, le football belge, mais aussi le football européen. Donc, une équipe chaque semaine de 3-4 chroniqueurs. Ça va tourner car on est plusieurs. Vous pouvez aussi participer à nos questions-réponses. On fera ça à chaque fin d'émission, sauf pour la première. Donc, on postera un tweet sur le compte Twitter. Donc, le compte Twitter, c'est @letmetalkoff, donc L-E-T-M-E-T-A-L-K-O-2-F. Donc maintenant, je vais accueillir mes chroniqueurs. Donc pour commencer, bonjour Musamel.
Salut l'équipe. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous me connaissez déjà. Je suis donc Musamel Ramat, membre de la team Belgium Touch. Et je suis très content de commencer ce nouveau projet avec vous.
Donc maintenant, Erwan, le deuxième chroniqueur du jour.
Ouais, salut tout le monde. Bah, moi aussi, je suis membre de l'équipe Belgium Touch et supporter de Manchester United. Donc on parle aussi beaucoup de Manchester avec une page aussi. Donc voilà, merci à Patrick pour l'invitation.
Pas de souci. Et le troisième chroniqueur du jour, Carter.
Supporter de Manchester United, donc la tristesse me colle à la peau. Mais voilà, merci à Patrick pour l'invitation et bienvenue tous dans le bateau.
Donc on est très, très heureux de commencer cette première émission. Donc bah, je vais commencer par vous présenter les thèmes du jour. Donc on va commencer par revenir sur la liste de Domenico Tedesco de jeudi dernier. Ensuite, on va partir à un deuxième thème. Donc, il y a eu deux news importantes ce jour-là. Donc, la prolongation de Tedesco jusqu'en 2026 et aussi l'annonce des nouveaux maillots. Et enfin, on terminera par l'attente qu'on a sur les deux matchs amicaux face à l'Irlande et l'Angleterre. Donc, on va commencer par le premier thème. Donc, un retour donc, sur la liste de Domenico Tedesco. Donc, je vais commencer par nommer la liste. Donc, au gardien. Quatre gardiens, Arnaud Baudard, Koen Castells, Thomas Kaminski et Mats Sells. En défense, on a Timothy Castagne, Connie De Winter, Zeno De Bast, Olivier De Man, Wout Faas, Thomas Meunier, Arthur Théâtre et Yann Vertonghen. Au milieu de terrain, on a Aurel Mangala, Amadou Onana, Youri Tielemans, Arthur Vermeeren et Aster Vranckx. Et en attaque, on a Johan Bakayoko, Michy Batshuayi, Charles De Ketelaar, Jérémy Doku, Romelu Lukaku, Dodi Luque Bakio, Loïs Openda et Leandro Trossard. Elle avait vraiment l'air très... Donc, qu'est-ce qu'il y a noté dans cette liste? Donc, on a la première sélection de Connie De Winter. On a le retour de Thomas Meunier qui était présent seulement pour la première liste de Tedesco, mais depuis, on ne l'avait plus revu. On a les absences de Kevin De Bruyne, Amin Aldakil et Carrasco. Donc, De Bruyne et Carrasco, c'est repos et blessure. Et pour Aldakil, c'est un choix, très clairement. Aldakil qui ne joue plus du tout à Burnley. On a noté les absences de Mils Villar. Donc, on avait beaucoup de rumeurs, mais apparemment, il ne peut pas rechanger de nationalité. Lui qui a déjà joué pour la Serbie. Pas de Maxime de Kuyper non plus, ou de Castro Montes sur les côtés. Pas de Witzel, mais bon, vu de ce qui est sorti récemment, on n'est pas étonné. Il a quand même pris sa retraite. Attention quand même pour quatre joueurs qui ont été sélectionnés. Castells, Mangala, Théâtre et Lukaku. Donc Castells et Mangala n'ont pas joué ce week-end. Donc fatigue musculaire pour Mangala, normalement ça devrait être bon. Castells, donc c'est une douleur à l'épaule. Arthur Théâtre, lui, est sorti sur blessure le week-end dernier face à Lille. Donc, on verra s'il est dans le groupe du Stade Rennais pour ce week-end. Et Lukaku, lui non plus, n'a pas joué face à Brighton et a été mis au repos. On notera aussi les absences de Sambi, Lokonga et Cyril Ngongué qui se sont malheureusement blessés avant la liste. Donc, voilà, c'était assez compliqué. Et donc, maintenant, on va passer un peu aux avis. Des chroniqueurs. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer par toi, Carter. Qu'est-ce que tu penses de cette liste?
Écoute, par rapport à la liste, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Malheureusement, je vais être un petit peu négatif. Comme à chaque sortie de liste, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on prend toujours quatre gardiens. J'ai toujours pas l'intérêt de prendre quatre gardiens et de ne pas rajouter aller un milieu de terrain ou de rappeler justement un U21 qui l'aurait mérité par rapport à l'ancien rassemblement. Je sais qu'il y a des sélections qui fonctionnent comme ça. Mais sinon, par rapport à l'absence de Kevin De Bruyne, écoute, si c'est juste par rapport à un repos, c'est triste vu qu'il n'a pas joué avec nous depuis le début de la saison. Et vu que les prochains rassemblements, c'est des matchs amicaux et l'Euro, on aurait quand même aimé le voir avec le nouveau noyau qui tourne. Hein. Mais sinon, peut-être que c'est une bonne chose qu'il n'enchaîne pas trop les matchs. Et la petite surprise Kony de Winter, je suis agréablement surpris. Je l'avais vu avec le U21 au mois d'octobre, je pense, contre l'Espagne. En le regardant jouer, j'étais en mode, c'est lui qu'on a besoin avec les A, en fait. On a besoin de ce profil-là à côté d'Havertongen pour l'Euro. Pour l'Euro, donc je suis très 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 content de sa présence dans le noyau pour les matchs amicaux et j'espère qu'on pourra le voir parce qu'on connaît Tedesco, mais j'espère qu'on pourra le voir en tout cas lors des deux matchs amicaux.
Ça va, et toi Erwan, qu'est-ce que tu en penses de la liste?
Juste pour réagir sur les quatre gardiens, il me semble que vu que c'est une liste de normalement limitée à 24, là il prend 25 joueurs, mais il ne pourrait pas le remplacer par un milieu de terrain. Je pense que c'est pour une question d'atelier, d'entraînement ou quelque chose comme ça, mais en soi, le quatrième gardien ne prend pas la place d'un joueur de champ. Voilà, juste pour réagir à ça. Sinon, moi j'aime plutôt bien la liste, je la trouve très cohérente en fait. Hein, il va dans la continuité de ce qu'il a fait. Il a été surprenant dans ses premières listes. Maintenant, il installe de la continuité par rapport à l'Euro. C'est juste très ennuyant de voir se passer de Kevin De Bruyne parce qu'on comprend très bien qu'on veut construire autour de lui. Notamment, on a vu notre match en Autriche ou en Allemagne où on était très bon en transition et Kevin De Bruyne est peut-être le meilleur joueur du monde pour mener des transitions avec des flèches autour de lui comme les Luke Bakayoko, Lukaku et même si c'est Openda qui joue à la place de Lukaku et évidemment Doku. C'est un peu dommage de devoir se passer du joueur autour duquel on doit construire pour aller gagner, enfin pour essayer d'aller loin à l'Euro. Donc c'est le seul bémol. Après, moi je l'aime beaucoup. Même les joueurs qui jouent moins comme Aastervranckx, j'aime énormément le profil. Il a un mélange de physique puissance avec un bon niveau technique. C'est juste dommage qu'à Wolfsburg, ça explose pas. Je suis persuadé qu'il a vraiment un énorme talent et que c'est un profil très particulier qu'on n'a pas spécialement parmi les autres. Voilà, donc Kony de Winter, pareil, je rejoins Carter qui disait que c'est un joueur très fort. En fait, il est déjà très mature pour son âge. On a tendance facilement à faire les parallèles avec des joueurs comme Compagnie. Je trouve aussi qu'à l'échelle du football actuel, il y a un petit air comme Saliba qui arrive déjà à l'OM. Il est ultra mature, super jeune. Je pense que de Winter, bon, sans côtoyer ces sphères-là, et déjà hein, ce genre de joueur très jeune, très mature, vraiment en avance sur son temps, enfin sur son âge. Donc vraiment content et j'espère, comme Carter l'a dit, que ça rimera aussi avec des minutes et pas seulement une présence dans les 24.
Ça va, très intéressant, très intéressant. Et toi, Musamel, qu'est-ce que tu en penses de cette liste?
Bah moi je pense que c'est une liste tout à fait logique. Tedesco a dû faire avec les joueurs disponibles et donc combler les joueurs blessés. Donc pour revenir à l'absence de Kevin De Bruyne, moi je pense que c'est une petite blessure et vaut mieux qu'il se repose sur ces petits matchs-là au lieu de d'enchaîner des matchs et revenir un peu cramé pour l'Euro. Donc c'est une bonne chose, même si c'est un peu malheureux qu'il n'ait pas forcément beaucoup joué ou quasiment pas joué avec ce nouveau noyau, parce qu'on aurait bien aimé voir ce que ça donne avec un nouveau milieu, des nouveaux joueurs, des nouveaux ailiers, Doku, Bakayoko, la connexion avec Lukaku, je dirais pas une nouvelle défense, mais une défense un peu remaniée. Donc je trouve que c'est un peu dommage pour ça. Et sinon, sur la question des milieux qui ne jouent pas, le cas d'Aastervranckx m'inquiète un petit peu. Je sais qu'il a un gros potentiel, on le sait tous, mais c'est un peu inquiétant qu'il enchaîne quasiment pas du tout les matchs avec Wolfsburg. À un moment, c'était le cas, je sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, il joue pas. Pour Vermeeren, je suis assez content. Il gratte quelques petites minutes de jeu à l'Atlético Madrid. Tillman, je suis content. Il joue assez. Onana, avant sa blessure, il jouait. Il s'est blessé. Il joue un peu moins. Il a bien récupéré. Pour Mangala, je suis très content aussi. Il enchaîne les matchs avec l'OL. Donc pour le milieu, je m'inquiète pas trop. Et si j'attends des changements pour l'Euro, non. Je pense que le noyau est quasiment fait. En tout cas, au milieu de terrain, je vois pas qui d'autre pourrait être rajouté. Mais par contre, en défense, moi, j'aimerais quand même que De Winter soit inclus, comme ici, dans le noyau pour l'Euro. C'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai suivi. Il me fait penser un peu de loin à Varane quand on pense à la maturité de jeu qu'il a. Donc, c'est un profil très, très intéressant, rapide. Et ce serait dommage de ne pas le voir dans la liste finale de Tedesco si. Amine Aldakil revient. Donc ça, c'est un petit truc qui m'inquiète. Mais sinon, je suis plutôt confiant. La liste m'a l'air correcte. Il y a des joueurs qui devraient être là. Donc Thomas Meunier ne jouait pas ou n'était pas repris par Tedesco. Parce qu'au Borussia Dortmund, il ne jouait pas. Là, il a eu son petit transfert à Trabzonspor. Il enchaîne les matchs. Donc je trouve que c'est logique qu'il revienne. Est-ce qu'il le mérite ou pas? Ça, c'est à vous de me dire. Mais moi, je trouve que c'est logique qu'il revienne dans la liste. Il joue assez régulièrement. En plus, il fait des plutôt bons matchs. Donc, ouais, voilà. Moi, c'est cette liste que j'ai là devant moi, c'est une liste qui pourrait être pour moi la liste finale, à quelques exceptions près, le retour de Doku et non, qu'est-ce que je raconte de, excusez-moi, de Kevin De Bruyne. Donc, c'est une liste plutôt logique pour moi et je suis plutôt satisfait, oui.
Moi maintenant aussi, je vais donner mon avis. Hein. C'est vrai, on n'a pas parlé. Hein. On dirait que c'est devenu Voldemort. Il y a Thibaut Courtois, il y a plus personne qui en parle. Moi, je ne vais pas vous cacher que, bon, il y a un mec en défense. J'ai toujours du mal à comprendre un petit peu pourquoi il est là. Je parle évidemment d'Olivier Deman, donc qui joue enfin, au Werder. Donc, là, il a joué ce week-end après quelques matchs comme remplaçant. Comme vous avez dit, comme pour Conny De Winter, c'est pareil, je suis très content. Avec Carter, on était le voir plusieurs fois jouer avec les U21. Vraiment, c'est un joueur. Ce qu'il dégage, lui, c'est de l'élégance surtout. Voilà, il joue le torse bombé. Je pense qu'il pourrait faire n'importe quoi, mais il est tellement sûr de lui que on se dirait, ben non, il le fait exprès, il sait ce qu'il fait. Mais donc, je me pose quand même sur la question, Maxime de Kuyper, j'ai du mal à comprendre sa non-sélection. Dans le sens où l'argument qui est beaucoup avancé, c'est le fait que, ben, bon, il est très bon offensivement, mais défensivement, c'est pas un latéral encore forcément prêt. Ok, moi je suis d'accord, et je suis d'accord qu'on mette un Arthur Théâtre, par exemple, dans le sens où on n'a pas besoin d'un latéral très offensif quand sur le côté tu as Jérémy Doku, mais de l'autre côté, tu vas prendre Olivier Deman, qui joue comme piston au Werder, qui jouait au cercle comme piston au milieu de terrain, qui n'est pas du tout un défenseur de formation, qui n'a pas non plus les bases défensives. Voilà, moi je me pose la question en me disant, est-ce que peut-être dans un match où tu serais dominé, par exemple, où tu devrais aller remonter un score, est-ce que tu n'aurais pas besoin d'un latéral qui a un pied exceptionnel? Parce que pour moi, Maxime de Kuyper, je pense que si tu mets dans cette liste, à part Kevin De Bruyne, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont un meilleur pied pour centrer ou à la passe, tout simplement. Donc voilà, pour le milieu de terrain, ben, j'en avais un petit peu parlé précédemment. Moi, j'ai de la peine pour Sambi Lokonga qui revenait très très bien à Luton, qui pour moi aurait vraiment pu faire partie de la liste s'il n'y avait pas cette blessure. Et là, honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura un joueur qui n'a jamais fait partie de la liste qui sera là à l'Euro. Donc pour lui, c'est vraiment mal tombé. Je suis aussi très d'accord avec Arwan sur le profil d'Astor Vrongs, qui ben, a montré hein, dans les matchs qu'il a fait avec les A qu'il a été directement performant. Alors que, assez bizarrement, U21, quand tu le regardes, c'est pas le plus performant au milieu. Quand c'était avec Vermeeren et Mandela Keïta, c'est pas lui qui ressortait. Mais en A, il arrive à tirer son épingle du jeu. Et j'aimerais aussi vous poser une question. Quand on voit la liste là, en fait, comme je dis, il n'y a pas Carrasco, mais je vois pas en fait qui pourrait remplacer. Donc je sais pas si vous avez un avis, parce que là je me dis la liste, je vois pas quel joueur offensif je peux retirer et mettre Carrasco à la place.
Moi, je te rejoins là-dessus. Là, je regarde la liste. Bakayoko, Ketelaar, Luke Bakio, Openda Trossard. Je ne vois pas qui est-ce qu'on pourrait enlever au profil de Carrasco. Mais le problème, c'est que Carrasco, ça reste un cadre. Et il faudra faire des choix.
Donc, moi, je pense qu'il y a quand même un monde où Batshuayi saute, quand même, même s'il est très apprécié. Parce qu'il y a quand même deux attaquants de pointe déjà pour un poste. Et même de Ketelaar, moi, je ne suis pas spécialement son plus grand fan. Enfin, en tout cas, je ne suis pas aussi hypé que la plupart sur lui, mais je pense quand même que il est sélectionné en tant que neuf et pas pour jouer sur un des côtés, ou alors peut-être à la place de De Bruyne, mais voilà. Mais si De Bruyne est là, bah, sa plus meilleure chance reste de jouer neuf. Donc Batshuayi fait un peu surplus. Après, je pense qu'on connaît un peu le personnage Batshuayi, ça doit être vraiment quelqu'un qui apporte une bonne ambiance et ça doit compter beaucoup sur les compétitions d'un mois, un mois et demi où les joueurs sont claquemurés ensemble pendant toute une longue période. Donc j'imagine que c'est plutôt Batshuayi qui pourrait payer les frais d'un retour de Carrasco. Et je voulais juste revenir sur De Kuyper. C'est en plus que récemment, il me semble, contre Molde, il joue latéral droit et parce que c'est Bjørn Major, je sais pas si je prononce bien son nom, qui joue de l'autre côté. Donc c'est un peu, en plus, il peut aussi dépanner de deux côtés. Je trouve que c'est d'autant plus dommage de s'en passer vu le talent du garçon.
Ouais, exactement. Je trouve ça vraiment dommage. Et en plus, bah, pour avoir suivi l'Euro 21, où bah, Olivier Deman et Maxime de Kuyper étaient tous les deux encore éligibles à cette époque, c'est Maxime de Kuyper qui jouait. Donc, voilà, cette différence de voilà, en U21, il y en a un qui joue et puis l'autre, il est pris alors que l'autre était son remplaçant. Je comprends pas. Après, est-ce que le fait que bah, déjà Deman jouait au Cercle de Bruges et voilà, le Cercle de Bruges était peut-être l'équipe la plus Bundesliga du championnat. Maintenant, il est en Bundesliga et on sait que Tedesco a envie d'avoir une équipe belge qui ressemble un peu à une équipe de Bundesliga. Je me dis, c'est peut-être ça. Et pour, en plus, ouais, Carrasco, en plus, il faut dire que pour le moment, il a toujours été titulaire aussi, en plus, sous Tedesco, enfin, dans les matchs, avec l'absence de Kevin De Bruyne. C'était Doku et Carrasco qui jouaient. Donc, c'est vrai que là, j'ai posé la question de est-ce qu'il sera dans la liste ou pas, mais pour Tedesco, j'ai l'impression que ça ne fait pas de débat.
Ah, je suis d'accord avec toi. Carrasco, c'est l'un des hommes forts de Tedesco. Donc, il n'y a aucun monde où il n'est pas repris, il n'y a aucun monde où il n'est pas titulaire.
Et qui plus est, je pense que depuis que la nomination de Tedesco à la tête de l'équipe nationale, Carrasco a toujours fait des plutôt bons matchs, des plutôt bons matchs avec la sélection. Donc, il y sera, je pense qu'il y sera, sauf catastrophe, sauf blessure. Et je pense que s'il est là, je pense que c'est De Ketelaere qui en fera les frais. Parce que malheureusement, on sait que le backup de Lukaku en sélection, c'est Openda, voire Batshuayi. Et De Ketelaere, depuis qu'il est en sélection, il n'a jamais montré de grandes, grandes choses ou de bonnes, bonnes choses. Donc je pense que si vraiment numériquement, il faut le remplacer par quelqu'un, à son avis, ce sera De Ketelaere qui saute. Je pense que sa présence dans la sélection aujourd'hui, elle est vraiment due au fait qu'il performe en club. Mais je pense que dans le noyau de la sélection, en tout cas avec la Belgique, il n'a jamais vraiment trouvé sa place. Donc, et surtout que s'il ne joue pas les deux prochains matchs, je pense qu'il ne sera pas là pour l'Euro.
Ouais. Moi, je suis pas d'accord sur le fait que Carrasco, je l'ai pas trouvé très il a été buteur avec la Belgique, mais je l'ai trouvé pas très performant pour avoir été au stade, par exemple, face à l'Autriche. Donc le match nul, c'était une catastrophe. Hein. C'est beaucoup de mauvais choix. En fait, Carrasco, je trouve qu'il joue encore beaucoup comme un joueur, un jeune joueur en fait. Tu vois, il y a beaucoup, il tente beaucoup, il rate beaucoup. Enfin, en fait, il joue comme j'imaginerais Doku jouer. Dans le sens où c'est, enfin, pour un joueur qui, je sais pas, il a quel âge, 30 ans, je trouve encore beaucoup de mauvais choix. Après, je pense qu'il le considère comme un cadre parce que, ben, y a beaucoup de joueurs qui ont pris leur retraite. Lui a une expérience quand même, que ce soit avec l'Atlético ou en sélection. Mais après, je ne sais pas, il est présent en sélection depuis quoi, 2015 ou 2016. Moi, je le considère pas comme un cadre par ses performances. Et ben, De Ketelaere, il a joué, malheureusement, le pauvre, il a joué contre la Suède, mais bon, il y a eu ce qui s'est passé à Bruxelles, donc il a pu jouer qu'une mi-temps. Que je trouvais qu'il était en train de monter en puissance. Il a marqué aussi face à qui? C'est l'Estonie, je pense. Moi, c'est vu qu'il y a si peu de joueurs qui sont vraiment en forme et que lui en fait partie, je trouverais ça dommage de s'en passer.
Non, moi je pense que c'est plutôt Batshuayi qui saute s'il y a un joueur qui doit sauter dans le groupe en attaque.
J'ai vraiment du mal à me dire que Batshuayi sauterait, puisque non seulement il est en forme en club, et je pense que c'est un joueur dans l'effectif qui connaît le mieux l'équipe nationale, qui connaît mieux les joueurs qui sont autour de lui. Et même si bon, on se rappelle tous de sa Coupe du Monde presque catastrophique et presque anecdotique, je pense que c'est un joueur qui est presque indispensable dans l'équipe nationale, par son rôle de remplaçant, évidemment.
J'espère que Tedesco ne pensera pas comme toi. En tout cas, on va passer donc au deuxième sujet du jour. Donc, évidemment, c'est l'annonce un peu surprenante qui a eu lieu. Donc, c'est la prolongation de Domenico Tedesco jusqu'en 2026. Donc, alors que de base, il avait été signé jusque 2024 et l'Euro. Et donc, il avait été dit que par rapport au résultat de cet Euro, on déciderait si oui ou non on le prolonge. Donc, apparemment, il aurait convaincu les dirigeants. Qu'est-ce que vous pensez de ces annonces? Est-ce que c'est précipité? Est-ce que c'est important de le conforter pour qu'il soit en confiance? Surtout que ben, on sait qu'il y a plein de clubs qui vont changer de coach et que ça pourrait être un coach qui attire. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce?
Bon, j'y vais. Moi, je pense que c'est une annonce assez surprenante. Comme tu l'as dit, d'abord, ce qui était prévu, c'est voir ce que ça allait donner à l'euro. Et ensuite, si c'était bon, le prolonger ou pas. Et moi, je pense que c'est plutôt la fédération qui a eu peur de le perdre au vu de tous les clubs qui cherchent un coach actuellement. Et c'est pour ça qu'ils sont précipités. pour le signer, mais en tout cas, moi, pour le moment, je dirais que je suis satisfait du travail de Tedesco. C'est un travail assez logique. Il suit ce qu'il dit. Donc, à voir, mais je suis plutôt content de sa prolongation et j'espère qu'il fera un gros euro comme nous tous ici.
Ben
Ouais, moi,
déjà,
désolé, je te laisse la parole, désolé.
Ça marche, merci. Donc, je disais, ben déjà, c'est un beau signe de la fédération, c'est une marque de confiance envers Tedesco. Je pense que déjà, il partira à l'Euro avec une petite pression en moins, en disant que, ben voilà, je pense que son futur avec l'équipe nationale ne dépend pas des résultats de l'Euro. Bon, quand il ne dépend pas, sauf catastrophe, évidemment. Et donc, non, pas vraiment surpris, malgré ce qui avait été convenu dès le début. Pas vraiment surpris. En plus, je pense que ça se passe plutôt bien avec le noyau qu'il a entre les mains. Donc, je pense que c'était peut-être la suite logique des choses, peut-être un peu précipité, mais rien de surprenant.
Non, mais du coup, j'allais dire plus ou moins la même chose. Je suis d'accord avec lui. Ça lui retire de la pression par rapport aux résultats qu'on attend à l'Euro. Après, voilà, il y a quand même un minimum. Je pense que notre groupe, on doit finir premier. Je pense que selon les tirages, on est censé au moins aller en quart de finale, je pense. Donc, il y a un minimum à remplir. Et je trouve aussi que c'est un geste fort par rapport à Courtois. Enfin, par rapport à la situation avec Courtois, parce qu'on pourrait tout simplement se dire, bah, son contrat, il court jusqu'en juin 2024, enfin, juillet 2024. Si ça marche pas, bah, la pression, c'est sûr et certain qu'on reparlera du cas Courtois si ça marche pas à l'Euro. Mais eux, ils ont quand même, ils ont un peu tranché et fait leur choix. En tout cas, la fédération est plus derrière le coach que derrière les joueurs. Parce qu'il n'y a pas que Courtois, il y a aussi Witsel qui est un peu, peut-être pas aussi méchamment, mais a quand même parlé donné une mauvaise image, on va dire, de Tedesco et de l'échange qu'il a eu avec lui. Donc la fédération a fait un geste fort et finalement, Tedesco, c'est assez logique par rapport à ce qu'il a construit jusqu'ici. On voulait qu'il a dû faire table rase de toute une génération sur laquelle Martinez n'avait pas du tout lancé de transition. Et ça marche quand même plutôt bien. Maintenant, on a Doku, Bakayoko qui sont installés. Il faut revenir à 1 an et demi. Ces mecs-là, on les voyait pas du tout en sélection, alors que Doku avait fait un superbe euro, enfin, un super match contre l'Italie. Et lui, il a vraiment réinstallé une nouvelle. Il a fait la première phase et sans doute la phase la plus importante de son travail, qui est encore plus importante que de performer à l'euro, c'est de reconstruire, reconstituer un noyau dur.
Noyau dur, hein. Quel beau mot, quel beau mot. Ouais, moi ça envoie un beau message pour lui. En plus, je pense que c'était important d'avoir un coach capable de tenir tête un petit peu aux grosses têtes, aux gros joueurs de l'effectif, parce que la facilité pour lui, ça aurait été de rappeler, rappeler Alderweireld, les joueurs qui veulent de les rappeler, enfin Alderweireld non, puisqu'il avait pris sa retraite, mais Witsel, Thibaut Courtois, un petit peu on va dire, se baisser face à lui, sachant que c'est un très jeune coach, hein, en plus d'être un nouveau sélectionneur, parce que c'est la première fois qu'il est sélectionneur. C'est un coach qui, voilà, je ne sais même pas à quel âge, il a 38, 39 ans, peut-être moins. Donc, pour moi, c'est le style de coach qu'il fallait pour recommencer un nouveau cycle. Il a tenu tête. Maintenant, peut-être la petite question que j'ai envie de vous poser, c'est à partir de quel moment, par exemple, un échec à l'Euro, on se dit qu'on peut arrêter son contrat. Pour vous, ce serait quoi la catastrophe? Ce serait ne pas sortir des poules ou sortir en huitième de finale? Enfin, ce serait quoi qui fait qu'on pourrait dire non, stop, ok, on a prolongé le contrat, certes, mais non, faut arrêter.
La première catastrophe, alors, ce serait finir déjà deuxième. Ça, c'est, je pense, le plus alarmant. Et encore pire que ça, je pense, c'est sortir en huitième. À partir de là, il y aura des grosses remises en question. Et là, on pourrait se dire, est-ce que c'est le coach qu'il nous faut? Je pense que ça, c'est vraiment les deux plus gros signaux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Moi, je suis d'accord avec toi. En plus, si j'avais un peu fait le tableau, si tout se passe comme prévu, les favoris finissent premiers, en fait, on a un chemin facile jusqu'en quart. Et je pense qu'en quart, il y a de grandes chances qu'on joue la France. Alors là, la France, c'est normal de sortir contre eux à l'heure actuelle. C'est la meilleure équipe du monde ou la deuxième meilleure équipe du monde avec l'Angleterre. Donc, si on sort contre eux, c'est normal. Après, ça dépend aussi de la manière. Si on se fait écraser contre la France, je pense quand même que c'est un mec qu'on met en avant pour l'aspect tactique. C'est un entraîneur novateur, etc. Donc, c'est quelque chose aussi qui doit se retranscrire dans la compétition, parce que Martinez avait aussi cette approche-là. On a vu qu'au-delà de 2018, il répétait les mêmes erreurs en boucle. Donc, Tedesco, c'est quelque chose qu'on doit voir au-delà juste du résultat. C'est la manière avec laquelle on va évoluer.
Ouais, j'aimerais revenir, désolé de t'interrompre, mais la meilleure équipe du monde, c'est l'Argentine, hein. C'est pas la France. Hein. En tout cas, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, c'est l'Argentine de Lionel Messi et Lionel Scaloni, et non celle de Kylian Mbappé et Didier Deschamps.
Factuellement, je suis d'accord.
À mon plus grand plaisir d'ailleurs.
Ouais, ben comme il était dit précédemment, je pense que vraiment la catastrophe, ce serait de finir deuxième. C'est ce que je pense aussi, de pas passer les huitièmes de finale. Après, je pense que ça dépend ce qu'on attend de Tedesco. On attend, est-ce que des résultats forts, et ça veut dire que un podium au minimum, ou alors un beau jeu proposé et un quart de finale serait satisfaisant. Ça dépend de ce qu'on attend de lui.
C'est vrai, c'est une très bonne question, ça, je vais dire. Est-ce que, imaginons, vous faites une différence s'il y a, par exemple, quart de finale, dans le sens la Belgique sort première du groupe, mais avec un nul et des matchs pas très, très plaisants. Un huitième de finale, face, comme Erwan l'a dit, normalement, on devrait croiser avec un. Enfin, non, on va croiser, je pense, peu importe ce qui se passe, avec un troisième de groupe,
Un
une
troisième, c'est ça.
victoire au pénalty, on va dire, et puis tu te retrouves face à la France où tu perds 2-0, s'il n'y a pas la manière, mais qu'il y a quart de finale. Pour vous, est-ce que ça doit changer quelque chose dans, et la perception évidemment, mais dans le jugement que les dirigeants devraient faire pour dire on continue ou pas, même s'il y a un contrat?
C'est une très bonne question. Moi, je dirais oui. Ça remettrait tout en cause parce que dites-vous plutôt, on finit premier. Mais c'est mauvais, on passe in extremis en huitième et on se fait humilier en quart. Vous serez content, vous? Moi, personnellement, non. Et donc, je pense que ce serait plutôt logique de plus continuer à ce moment-là. Mais si c'est
Ouais.
l'inverse, qu'on cartonne en groupe, on cartonne en huitième et qu'on sort de peu contre la France, possiblement, je me vois continuer avec lui. Mais si c'est l'inverse, non. Même si on va en quart, mais que c'était très mauvais jusqu'en quart, mais qu'on est passé jusqu'en quart. Non, moi je me vois pas continuer avec un coach comme ça.
Ouais, mais c'est compliqué parce qu'on le sait évidemment, notre fédération n'a pas d'argent. Donc le fait que tu l'aies prolongé, j'ai l'impression ça quand même ça te lie dans le sens où bah oui, t'as pas le choix, tu l'as prolongé, t'as pas d'argent. Si tu le vires, je pense que c'est un monsieur qui doit prendre peut-être 1 million à l'année. Ça veut dire que tu vas de quoi 2 millions comme ça à sortir. Et en plus, le plus important aussi qu'il faut dire, c'est que voilà, je vais vous l'apprendre, je serai présent au stade pour le quart de finale que la Belgique devrait jouer s'ils finissent premier de groupe. Donc voilà, il y a intérêt à ne pas se faire humilier, parce que sinon, voilà, courage à lui.
Et moi, je serai présent lors du troisième match, pour votre info, en groupe.
C'est bien, le projet il commence à peine, on a déjà des insiders sur place, c'est super. Du coup, je suis assez d'accord, moi déjà à l'époque, pour revenir sur Wilmots, en 2014, déjà pour moi il devait sauter. Parce que la manière avec laquelle on sort, on se défait des États-Unis en prolongation, d'accord, c'est parce que le ballon rentre pas, on va dire, mais tout de même, c'était quand même pas génial non plus ce qu'on voyait avant ça contre l'Algérie, et voilà. Et l'impuissance qu'on a ressentie contre l'Argentine, pour moi, c'était déjà la goutte de trop, on va dire. On sentait clairement que cet effectif-là, il valait beaucoup mieux que ça. Bon, Tedesco, évidemment, on dit ça, on est en train d'anticiper le scénario négatif pour l'instant, et moi je trouve qu'il a toujours agréablement surpris. Mais oui, je trouve quand même que l'Euro, c'est un quitte ou double en plus, un peu, parce que sera de toute façon ces 4-5 matchs qu'on jouera, voire plus, auront plus d'impact que la dizaine de matchs qu'il a déjà joué. C'est normal, c'est de la compétition. Il n'y a pas son rôle, ça consiste pas juste à construire un groupe, il faut en faire quelque chose. Mais après, voilà, il a déjà des choix cohérents dans les hommes, contrairement à Martinez, c'est déjà une super chose.
Ouais, je posais une dernière petite question ben, à toi, Carter. Est-ce que toi aussi tu vas prendre en compte, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est que Tedesco, depuis le début de son mandat, n'a jamais eu un effectif au complet. Il y a toujours eu des absents, évidemment Kevin De Bruyne. Donc là, quand Kevin De Bruyne était présent, il n'y avait pas de Jérémy Doku. Là, on a le problème de gardien, mais bon, je pense qu'on va aller à l'Euro avec Castells comme numéro 1. Est-ce que les absences devront être prises aussi pour l'Euro?
C'est une bonne question. Je pense que globalement, non. Parce que globalement, non. C'est vrai qu'il y a toujours eu une ou deux absences. C'est vrai que des absences majeures, si on parle de Courtois ou de Bruyne. Mais de manière générale, l'effectif a toujours bien tourné. Ça a semblé ne pas être une excuse lors des matchs qu'on a disputés. Il y a souvent eu des bons résultats et avec la manière. Donc, je pense pas que c'est maintenant qu'on le trouvera des excuses par rapport aux absences. Surtout que je pense, sauf catastrophe encore une fois, que pour l'Euro en juin, l'effectif sera vraiment au complet, donc et qu'il aurait vu au moins une fois tous les joueurs de l'effectif, enfin, du noyau élargi. Donc, je pense pas que c'est une excuse qu'on pourra lui trouver, en tout cas par rapport à ça.
Croisons les doigts qu'il n'y ait aucune absence. Donc maintenant, on va passer à la deuxième info, pardon, la deuxième info donc de cette journée, de ce jeudi, après la prolongation de Tedesco, c'est donc les nouveaux maillots ont été dévoilés, donc deux nouveaux maillots présentés donc au musée Hergé, donc un maillot Bordeaux pour le domicile, un maillot bleu ciel en hommage à Tintin pour l'extérieur. Là, j'ai besoin de Christina Cordula. Là, j'ai besoin d'avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite note sur 10. Qu'est-ce qu'Adidas a pondu? Est-ce que c'est du poulet? Est-ce que c'est pas du poulet?
Pour moi,
Moi, je
c'est
vais
un
vous.
abs.
Vas-y, vas-y,
Vas-y,
je te laisse.
non, vas-y, vas-y, je te laisse, allez.
Bah, je vais vous dire, les gars, pour moi, c'est deux maillots banger, banger. Le bleu en hommage à Tintin est incroyable. Je vois pas du tout, je me vois pas du tout prendre ce maillot si c'est pas un flocage Kevin De Bruyne. Comme ça, vous savez, ce maillot-là est fait pour lui. Et le rouge, moi, je le floque, le rouge Bordeaux, je le floque deux coups. Deux maillots que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je pense que d'ailleurs, le maillot domicile est l'un des plus beaux de ces dernières années pour moi.
Ben, tu m'as vraiment ôté les mots de la bouche. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu des maillots de la Belgique aussi beaux. Et je pense pas en avoir déjà vu aussi beaux. En tout cas, le bleu ciel, il est incroyable. Et je pense qu'on le verra partout cet été en Belgique. Parce qu'il est vraiment, 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 vraiment banger. Et moi, contrairement à mon ami, je partirai sur un flocage R9. Et oui, quand je dis R9, on ne parle pas du grand attaquant brésilien, mais le meilleur attaquant du monde, j'ai surnommé Romelu Lukaku.
Et toi, Erwan, t'en penses quoi?
Bon, je les aime bien, je les trouve vraiment très beaux pour le coup, même le logo dont je ne suis pas fan passe très bien dessus. Le bleu ciel, juste un peu de réticence à prendre deux coups Kevin De Bruyne, parce qu'en tant que mancunien du côté rouge, ça fait un peu trop City. Du coup, on prendra sans doute peut-être Romelu, c'est une bonne chose. Et le Bordeaux, peut-être plus sur deux coups, mais c'est vraiment, on était gâtés. On était gâtés pour une fois.
Ouais, c'est vrai, moi aussi, hein, j'adore le Bordeaux, je le trouve totalement dingue. Le fait d'un peu changer de couleur, parce qu'on était souvent sur le même rouge, rouge vif, là, un petit Bordeaux, je le trouve incroyable. Le bleu, attention, moi, c'est pour le short, parce qu'ils ont voulu faire Tintin à fond, donc ils ont fait un short brun, enfin, un brun plutôt clair. Bon, ça fait un peu bizarre, mais le t-shirt tout seul. Je le porte normal avec un cargo. Je me balade dans Bruxelles normal avec. Genre, je pense que je vais aller au taf avec. Il n'y a aucun souci. Il est totalement dingue.
J'ai pas vu la couleur des chaussettes pour le maillot bleu, c'est lesquels, ça me dit?
Ça doit être blanc, comme Tintin, je
Blanc,
pense.
tant qu'il n'y a pas
Ouais,
des flammes dessus, ça me va.
franchement, le maillot domicile vous, de cette, enfin, pour la Coupe du Monde 2022, dans 20 ans, vous comprendrez que c'est un banger.
En vrai, s'il n'y avait
Voilà.
juste pas les manches, c'était le meilleur maillot de l'histoire.
Ouais, mais
Moi,
malheureusement,
j'avais du
c'est.
mal avec les flammes, franchement, les flammes, c'était bizarre.
Moi, je l'ai, donc je peux pas mal parler. Mais en tout cas, je pense qu'Adidas, il faut dire merci parce que j'ai vu là un thread Twitter des maillots Nike. C'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe.
Bah, d'ailleurs, le maillot de l'équipe de France, je sais pas si vous avez vu, le logo est hyper grand, c'est moche. Je suis pas du tout fan.
Non, non, ouais, j'ai vu ça. J'ai vu la Croatie aussi où c'était ridicule. J'ai vu la Turquie où c'est. C'est un maillot vraiment, je pense que c'est les maillots que tu avais sur PES quand ils n'avaient pas les droits, c'est-à-dire un maillot blanc avec un gros truc rouge au milieu avec le drapeau de la Turquie, c'est immonde. C'est immonde.
Et Adidas a fait super maillot aussi pour le Mexique, il me semble, ils sont vraiment exceptionnels. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vraiment, c'est une folie.
Ouais,
J'ai
ouais.
vu. Et
Ouais, j'ai
Allemagne
vu,
aussi.
c'était super beau.
Donc maintenant, on va passer, on va re-rentrer dans le vif du sujet. Donc on a deux matchs amicaux pour la trêve du mois de mars. Donc le 23 mars à 18h face à l'Irlande. Voilà. Ensuite, on a le 26 mars à 20h45 face à l'Angleterre. Si j'ai bien vérifié, d'ailleurs, ce seront des matchs qui seront diffusés sur RTL et non sur l'RTBF. Voilà. Deux matchs à l'extérieur, donc on ne pourra pas observer nos diables depuis le stade. Quel dommage, moi qui voulais vraiment aller au stade Roi-Baudouin. Mais bon, voilà. Donc je vais d'abord. Voilà, on va suivre l'ordre chronologique. Donc le match en Irlande. Donc pour la liste des Irlandais. Peu de joueurs vraiment connus du grand public. On a Coleman, qui est connu. Donc en défense, on a Coleman, Doherty, et Jack O'Brien, qui est le joueur de Lyon, qui était au RWDM. Au milieu de terrain, on a Josh Cullen, hein, l'ancien Anderlechtois. Et en attaque, on a l'attaquant de Brighton, Evan Ferguson. Donc un petit peu pour revenir sur l'Irlande. Donc l'Irlande n'est pas qualifiée pour cet euro. En effet, elle a fini quatrième de son groupe de qualification derrière la France, les Pays-Bas et la Grèce. Il faut dire que ce n'était pas forcément un groupe très facile, mais quand même, ils ont seulement deux victoires face à Gibraltar, même pas un petit nul face aux autres adversaires, donc ils ont fini juste avec 6 points. Après, il faut dire que ça a été quand même des défaites assez courtes, hein. Il n'y a pas eu de 4-0 face à la France ou quoi, ça a été des 1-0, des 2-1, des 2-0. Je me souviens d'un match, le match face à la France à domicile où il y a un très grand Mike Maignan, et voilà, avec une grosse ambiance, hein, en Irlande. Donc voilà, j'ai envie de dire pour ce premier match, quelles sont vos attentes sur ce match? Est-ce que vous voulez voir des tests? Un joueur comme Conny De Winter, par exemple, ou même un Zeno de Bast qui a eu très peu sa chance? Est-ce que vous voulez voir plutôt un 11 performant titulaire pour continuer à pas à progresser, mais continuer à finaliser les automatismes? Qu'est-ce que vous attendez?
Moi, je dirais plutôt un mix des deux. J'aimerais qu'on teste des choses et j'aimerais qu'on ait quand même des joueurs titulaires qui jouent assez souvent. Je vais m'expliquer. Comme test, je dirais, j'aimerais bien avoir Conny de Winter. Moi, je le vois démarrer ou plutôt le voir rentrer le plus vite possible. En défense, c'est ce que j'aimerais. Au milieu de terrain, j'aimerais plutôt voir un Charles de Ketelaere à la place de Kevin De Bruyne dans le même rôle. Ça, j'aimerais bien qu'on teste pour voir ce que ça pourrait donner. L'attaque, je resterai plutôt sur ce qu'on fait d'habitude, Jérémy Doku ou peut-être Trossard, ça dépendra de la forme de l'un des deux. Romelu Lukaku en neuf et je mettrai plutôt Johan Bakayoko à droite. Donc vraiment un mix de tests et de joueurs titulaires assez souvent.
Mes attentes à moi pour en tout cas ce premier match amical face à l'Irlande, je pense qu'au-delà du résultat, c'est de montrer que la Belgique est capable de dominer un adversaire pardon, qui est sur le papier plus faible que lui. Parce que le résultat, ben, je pense que Tedesco, depuis qu'il a pris la main de l'équipe, enfin en tout cas de la sélection, il a prouvé qu'il était capable d'en faire. Je me rappelle d'un match contre l'Allemagne, je me rappelle d'un gros match contre la Suède, si je dis pas de bêtises. Donc ici, je pense que avant l'Euro, pour assurer nous les fans, ce qui serait top, c'est de montrer qu'on est capable de dominer un adversaire qui est sur le papier plus faible que nous. Parce que, bon, c'est l'inquiétude qu'on a. C'est vraiment l'inquiétude qu'on a, en tout cas.
Et toi, Erwan, c'est quoi tes attentes?
Je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'ici, on a quand même plutôt brillé comme équipe de transition. Il serait bien de mettre vraiment une grosse pression et vraiment asseoir une domination et la concrétiser. Pas seulement contre une équipe qui est quand même solide, c'est quand même une équipe qui sait défendre, qui a du talent en attaque. On parle d'Evan Ferguson, il ne fait pas une belle saison, il a un peu. Voilà, il y a quelques blessures par-ci par-là. João Pedro qui explose aussi du côté de Brighton, donc c'est pas facile, mais c'est quand même un beau test, notamment pour Conny de Winter et ce genre de. Et peut-être même de Bast. Et je rejoins aussi, je pense que c'est Musamel qui a dit qu'il fallait mettre un mix parce que non seulement c'est plus intéressant pour essayer de garder une certaine continuité. Dans le développement du 11, on va dire qu'il va jouer à l'Euro, mais en plus, je trouve que même quand tu veux tester un joueur, le mettre dans une équipe qui n'a pas de repères, c'est pas lui faire un cadeau, même quand tu joues des adversaires plus faibles que l'Irlande. Je me rappelle Luke Bakio, par exemple, il jouait des matchs où on faisait tourner complètement l'équipe à Gibraltar. C'est des matchs qu'on gagnait 2, 3, 4-0, d'accord? Mais c'est pas des équipes qui tournaient parce que c'était Benteke, c'était que des joueurs qui jouaient jamais, qu'on mettait tous ensemble. Et si tu veux vraiment voir ce que vaut un joueur, bah, c'est le voir dans les conditions dans lesquelles tu voudras le voir, c'est-à-dire. Que Conny De Winter, bah, tu voudras le voir sans doute à côté d'Arthur Theat et de Jan Vertonghen, avec Onana devant lui, et pas avec Aster Vranckx et je ne sais pas qui, Olivier Deman avec lui. Donc voilà, je pense que c'est d'autant plus intéressant de ne pas leur donner des cadeaux empoisonnés, de les tester dans les conditions réelles dans lesquelles on les attendra si ils doivent s'installer dans le 11.
C'est vrai. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est vrai qu'il faut un turnover, certes, mais un turnover intelligent. Pour moi, il faut un turnover dans le sens où il faut préparer au cas où il y ait l'absence d'un défenseur. Il faut préparer si, imaginons, Vertonghen n'est pas là, qu'un joueur puisse jouer avec Hautefaze et l'habitude de jouer avec lui, enfin, puisse prendre l'habitude et pas mettre deux mecs qui vont jouer. Mais en fait, il y a très peu de chances qu'ils jouent ces deux joueurs un match ensemble. Autre petite question. Que j'avais à faire, enfin, question plutôt, pas vraiment une question, mais plutôt une. C'est une question. Je vois aussi dans la liste des attaquants Michael Obafemi. C'est pas des surnoms de Kylian Mbappé?
Non, ça l'est pas, ça l'est pas, ça l'est pas. Mais ça me surprend qu'il soit dans la sélection, puisque ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Je sais qu'il a signé à Burnley en janvier, mais il ne me semble pas l'avoir vu récemment jouer un match, donc ça ne devrait pas être une menace pour nous.
Ouais, je vois Millwall normalement aussi. Bon, après, j'ai vu des joueurs dans des clubs. Ils jouaient où déjà, Robson Kanou? Donc, je vais faire attention, quoi.
Je me demande même s'il avait un contrat à ce moment-là. Je suis même pas sûr qu'il avait un
Ah,
contrat à ce moment-là.
Bah, je
on
pense
peut
qu'il faisait de
vraiment.
l'intérim un peu à côté.
Ouais, il est à Temple Team. On peut vraiment dire qu'on lui a donné une carrière et là c'est réel. Donc, maintenant, on va passer donc au deuxième match. Donc le match face à l'Angleterre, donc un gros match à Wembley pour nos diables. Donc l'Angleterre, dernier quart de finaliste de l'équipe enfin, de la Coupe du Monde plutôt, face à l'équipe de France. Pour moi, j'ai envie de dire, c'était pourtant une des plus belles équipes de cette Coupe du Monde, même si surtout, on s'est évidemment contre la France, parce qu'ils nous avaient montré des choses très intéressantes ben, face au Sénégal, ou aussi en phase de groupe, avec des joueurs vraiment de très très haut niveau. Donc leur liste, je peux la nommer en entièreté parce que contrairement aux Irlandais, on connaît un petit peu plus, même si il y a quelques joueurs, je ne vais pas vous cacher que je ne sais pas qui sont ces gens. Donc, on a en gardien Sam Johnstone, Jordan Pickford et Aaron Ramsdale. En défense, Brent Swaite, Ben Chilwell, Lewis Dunk, Joe Gomez, Ezri Konsa, Harry Maguire, Johnstone, c'est Kyle Walker. Au milieu de terrain, Jude Bellingham, Connor Gallagher, Jordan Henderson, James Maddison, Declan Rice. Et en attaque, on a donc Jarrod Bowen, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Cole Palmer, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney et Ollie Watkins. Donc, comme absence à noter, on n'a pas de Sterling, qui est absent depuis quand même pas mal de temps en Angleterre. Voilà, on n'a pas de Loftus-Cheek qui pourtant performe plutôt pas mal à Milan. Et quand je vois certains milieux de terrain, je me pose des questions. Donc, on a évidemment un coach qui est un petit peu décrié, on va dire, par rapport aux résultats, par rapport à l'effectif qu'il a, qui est un des meilleurs du monde. On a des joueurs, évidemment, qui sont très en forme hein, du côté des Anglais. Phil Foden, Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice et encore d'autres. Donc, pour leur dernier résultat, donc, eux sont évidemment qualifiés hein, pour l'Euro. Ils ont fini premier de leur groupe. Donc, devant l'Italie, l'Ukraine et la Macédoine du Nord avec 20 points sur 24 et 0 défaite. C'est quand même un groupe avec 4 équipes qui étaient au dernier Euro. Donc, l'Italie, l'Ukraine, la Macédoine et les Anglais. Est-ce que pour ce match, vous avez des craintes?
Des craintes, oui, il faut en avoir. Parce que regarde, tu as cité la liste. C'est avec la France l'un des meilleurs effectifs du monde. Donc, oui, il faut avoir des craintes. Et je pense que c'est vraiment le premier gros test de la bande de Tedesco. Donc, c'est vraiment sur ce match-là qu'il faut prouver des choses, qu'il faut montrer. Il faut dire que voilà, nous aussi, on est là. C'est pas parce que vous êtes l'Angleterre que vous avez plein de top joueurs que nous, on ne peut pas faire de match contre vous. Donc, je pense que c'est vraiment le plus gros test à venir de l'équipe de Tedesco.
Non, mais je suis d'accord. C'est vraiment une équipe incroyable. Après, ça reste des amicaux pour eux. Il y a des joueurs qui jouent encore leur place. Je pense que vu la forme de Sterling, Rashford, qui ne fait pas une très grande saison, a quand même été en ballotage favorable, mais il doit quand même prouver. S'il fait tourner en attaque, peut-être qu'il ne prendra pas et Watkins et Ivan Toney. Donc voilà, c'est quand même deux attaquants hyper solides de première ligue. Ivan Toney est revenu en janvier, mais c'est très fort. Lee Watkins, il va battre le record de Benteke, d'ailleurs, du nombre de buts marqués sur une saison en première ligue avec Villa. Anthony Gordon, on n'en parle pas tellement, mais super joueur, enfin joueur super intéressant. Et après, il a quand même des certitudes, mais il doit trouver des tests parce qu'il y a aussi un cadeau empoisonné avec ce genre de sélection, c'est de trouver l'équipe parce que tu as des joueurs qui sont indiscutables, mais il y en a d'autres. Bah, il y a de grandes chances que James Maddison ne soit pas titulaire, que tu te retrouves avec Jared Bowen qui fait une super saison, tu n'arrives pas à le placer et ainsi de suite. Donc, il fera aussi des tests. Donc, peut-être que à cause de ça, on n'aura pas la meilleure version de l'équipe d'Angleterre en face, mais tout de même, ce sera un affrontement qualitatif. Et en effet, il ne faut pas qu'on se fasse marcher dessus. Alors, le résultat n'est pas super intéressant, mais parce que ça reste un amical. Mais oui, la bannière, elle sera super importante. C'est vraiment ce match-là qui comptera et qui va nous rassurer ou non en vue de l'Euro.
Ouais, ben voilà, comme il était dit un peu précédemment, est-ce qu'il y a des craintes? Mais quand même, parce qu'on parle de l'Angleterre avec un super noyau. Donc forcément, oui, il y a des craintes. Le résultat, il est pas super, super important. On ne va pas oublier que c'est qu'un match amical. Mais je pense que c'est bien de montrer aussi qu'on peut tenir tête à des équipes, des effectifs qui sont peut-être qualitativement supérieurs un petit peu à la Belgique. Même si la liste fait pas tellement saliver sur le milieu de terrain, j'aurais vraiment aimé voir Loftus-Cheek à la place de Jordan Henderson, par exemple. Et surtout aussi Fikayo Tomori à la place de Ezri Konsa ou de Lewis Dunk, pardon. Mais sinon, je pense que c'est un effectif auquel... Enfin, ça sera un bon match amical. C'est le point positif, c'est qu'on peut se frotter à une top équipe en Europe. Et à partir de là, je pense qu'il y aura des choses sur lesquelles on pourra avancer ou rectifier. Parce que c'est peut-être une des équipes qu'on pourra frotter dans le dernier carré final. Pardon.
Ouais, moi aussi, hein, y a quand même... C'est une équipe, genre là, offensivement, je la trouve très sexy, la liste. Mais c'est vrai que le milieu de terrain... Jordan Henderson qui est là revenu à l'Ajax et bon Conor Gallagher qui est un joueur dont je suis pas du tout fan voilà même en défense il y a quand même voilà il y a plus de Reece James. Trippier est lui aussi blessé. Trent Alexander-Arnold est blessé alors que c'est une équipe qui avait plein de latéraux droits, mais là en fait il y a que Kyle Walker. Il y a des joueurs, honnêtement je vais pas vous cacher que je ne sais pas qui est Ezri Konsa. J'ai arrêté le foot de me suivre.
C'est un défenseur de Villa. C'est un défenseur de Villa. Il est vraiment sympa. Pour le coup, je trouve que celui qui fait tâche, c'est Lewis Dunk, un peu par rapport à Tomori, comme l'a rappelé.
Mais Tomori, est-ce que cette saison à Milan, c'est pas plus compliqué? J'avais cru.
Justement, c'est l'inverse. L'année passée, qu'il a connu une saison un peu compliquée. Ici, ça se passait plutôt bien. Ce qu'il a freiné, c'est une grosse blessure, je pense, vers la fin de l'année civile 2023. Mais franchement, de ce que moi j'ai vu et de ce que j'entends des supporters de Milan, ça se passe plutôt bien cette saison. En tout cas, il est plus rassurant.
Cette saison, c'est plus c'est Malixio qui a peut-être un peu de mal du côté de Milan.
Et Kaloulou aussi.
Et Brent Swaite, c'est celui d'Everton, c'est ça, lui?
Oui, c'est un jeune gaucher.
Ouais, Ezri Konsa qui remplace c'est Mings qui s'est blessé du côté de Villa en début de saison, c'est ça?
Je pense que depuis un moment, il joue quand même tout le temps avec Pau Torres. Hein. Il me semble que c'est toujours cette paire-là.
Mais Tyron Mings qui s'est blessé, non? Parce que c'était lui le joueur de Villa qui était en sélection. Voilà, j'ai l'impression qu'il a disparu. Je ne sais pas s'il s'est blessé. Tyron Mings,
je ne sais pas si c'est une blessure. Je sais quand même où il avait. Ah, ok.
Le 13 août 2023, il ne va pas jouer de la saison. J'imagine que c'est. Okay. Que Ezri Konsa profite de ça. Donc voilà, après, voilà, je rappelle qu'on a quand même un bilan assez positif dernièrement. Donc les deux victoires en Coupe du Monde face aux Anglais. En Ligue des Nations, on les a battus 2-0 chez nous. Et là, je vois la compo. Je vois une défense à 3 avec Deneyer. Je vois un milieu de terrain, Witzel Tielemans. Thorgan Hazard, piston gauche. Mertens, ailier droit. Et pourtant, on les avait battus.
Après, en Coupe du Monde, je pense que l'Angleterre ne voulait pas forcément finir premier du groupe parce que. Ils ont fini deuxième, mais ils sont tombés de l'autre côté du tableau où c'était beau. Vous avez un boulevard limite vers la finale.
Et ils n'ont pas été en finale, ils se sont fait éliminer par la Croatie et on les a battus encore une fois pour la troisième place. Non. Donc voilà, et là, on va dire pour vous, donc là, c'est plus la manière qui va compter, la façon de jouer que le résultat. Imaginons que la Belgique, dans un match assez moyen, finisse par gagner, on va dire, 0-1 sur un pénalty. Mais en concédant 15 occasions nettes. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant plutôt le fait que c'est une équipe qui a réussi à tenir face à une grosse sélection en ayant son meilleur joueur absent? Ou est-ce que vous allez dire que c'est peut-être inquiétant quand même d'autant se faire dominer et que là, c'était plus de la chance qu'autre chose?
Je pense que ça sera un petit peu inquiétant. Mais le point positif, c'est qu'il vaut mieux s'inquiéter avant l'Euro que pendant l'Euro. Et donc... S'il y a des erreurs qui sont à faire, autant les faire pendant ces matchs amicaux et face à des équipes qui sont plutôt solides, tant de pouvoir apporter quelques modifications, quelques changements à ce qui n'aura pas été. Donc oui, c'est plus la manière qui comptera que le résultat. Le résultat n'est pas, à mon sens, si important que ça.
Quand je parlais de match test, c'est exactement ça. Sur ce genre de match, c'est ce qui nous permet de nous tester. Donc là, c'est plutôt la manière qui compte. Bien jouer ou pas, être dominé ou pas dominé, être bon ou pas. Donc moi, si on perd ce match-là, par exemple, disons 2-1, je ne serais pas forcément déçu. Mais si on a bien joué, qu'on perd 2-1, je serais content. Et je me rassurais en disant qu'on n'a pas Kevin De Bruyne. Qu'est-ce que ça aurait donné avec Kevin De Bruyne, par exemple?
En effet, et en plus, il faut noter que c'est le seul gros match de ces amicaux, parce qu'il y a l'Irlande. Après, au mois de juin, on va affronter le Luxembourg et le fameux Monténégro. Donc voilà, c'est des adversaires, on le sait, un petit peu moins forts et qui seront peut-être plus, pour se juger par rapport au niveau des adversaires qu'on affrontera en face du groupe, qui sont des adversaires, il faut être quand même honnête, un peu plus faible, donc voilà.
Oui, les matchs avant l'Euro, c'est surtout, en plus, c'est pour de la mise en rythme, c'est donner du temps de jeu à ceux qui ont un peu moins joué, ce genre de choses. Tu fais plus tellement d'ajustements tactiques, tu essayes de ne pas fatiguer tes joueurs, de ne pas les blesser, et c'est tout. Alors qu'ici, c'est vrai que c'est super sympa, comme juste sur ces deux derniers matchs-là, sur ces deux matchs-là, c'est sympa, c'est que c'est des adversaires diamétralement opposés, en tout cas sur papier, dans l'idée où l'Irlande, c'est une équipe qui ressemble plus aux équipes qu'on risque de jouer en poule ou en huitième de finale, où on va dominer, avoir le ballon, et là, on doit devoir trouver la faille. Tandis que de l'autre côté, on va sans doute subir. Et voilà, et c'est plutôt notre capacité ou pas à croire au fait qu'on sera capable de faire un exploit contre la France, ou plus loin si on y arrive, ou contre des tops équipes à l'Euro. Donc, c'est vraiment deux adversaires bien choisis, je trouve.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. Donc déjà, 51 minutes pour une première. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous remercier, vous, les chroniqueurs, pour votre présence. Je remarque aussi, et personne ne me l'a dit, que j'ai oublié de me présenter au début de l'émission. C'est tous présentés sauf moi, donc moi c'est Patrick, fan du Real Madrid. Vous m'avez peut-être vu avec Musamel aussi sur une autre émission qui était nommé sans le faire exprès durant cette émission. Donc, merci à vous.
Merci à vous les gars, c'était vraiment chouette pour une première et j'espère qu'on se reverra assez vite.
Un grand merci à vous les gars, franchement, merci pour cette première et j'espère que ça aurait été agréable à l'écoute pour les auditeurs.
Merci à vous, merci encore une fois Patrick pour l'invitation, j'espère que le projet prendra vie et qu'il plaira aux gens qui nous écoutent.
Pareil, donc évidemment on remercie aussi vous, nos premiers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Donc je le répète, le Twitter de l'émission, vous pouvez nous retrouver, c'est Let Me Talk Off, donc LETMETALKO2F. Donc ce sera sur ce Twitter que les émissions seront annoncées. Vous pourrez aussi faire des suggestions, dire ce que vous en avez pensé. On lancera aussi à partir de la seconde émission des questions-réponses. Donc en fin d'émission, on répondra à vos questions par rapport au thème qu'on abordera et on mettra un tweet sur le compte pour demander vos questions. Donc on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle émission pour débriefer donc les deux matchs amicaux. Donc sur ce, ciao.
Ciao ciao.